Bon, ben, on va commencer. Hein. Donc, pour continuer les débats dans la même lignée sur la question de oppression et résistance locale. Alors, on devait avoir quelque chose au pluriel, en fait, ça va être au singulier, puisque Nikos Panayiotopoulos, excuse-moi Katerina, ne pouvait pas venir. Donc du coup, on va avoir un seul type de résistance, et plutôt alors française, mais sur des étrangers en France. Donc les deux personnes qui sont à côté de moi en représentent trois autres. Ça, vous êtes cinq. Donc il y a Anne Bory et puis il y a celui qu'on ne présente plus puisqu'il est déjà intervenu ce matin, Sébastien Chauvin. Donc je ne le représente pas, sinon qu'il est donc prof assistant à l'université d'Amsterdam et qu'il a beaucoup travaillé sur le Chicago et plus largement la question du travail intérimaire et du travail précaire. Et puis Anne Bory, qui est donc maître de conférence en sociologie à l'université de Lille 1, et qui est au Clercé, qui elle a beaucoup travaillé sur le monde associatif, le travail associatif en France et aux États-Unis, pour résumer. Et donc ils vont faire le compte-rendu d'une grosse recherche qu'ils ont fait pendant plusieurs années sur la question des mouvements, de la grève des sans-papiers. Donc c'est ce livre-là qui est en vente derrière vous, si ça vous intéresse. On n'a aucun intérêt sur ces ventes, en tout cas. Maintenant, vous êtes cinq. Et du coup, voilà, vous allez présenter à vous deux donc ce travail collectif. On va vous laisser donc, puisque vous êtes seul à intervenir, on va vous laisser donc un peu plus d'une demi-heure pour présenter, pour qu'on puisse avoir ensuite entre 20 et 25 minutes, voire une demi-heure, si c'est possible, de discussion. D'accord ? Voilà. Très bien.
Donc, bonjour. Donc, on va vous parler d'un mouvement qui a commencé massivement ou officiellement le 15 avril 2008 avec le lancement de grèves concertées donc de salariés sans papier en région parisienne, essentiellement à l'époque dans les entreprises de nettoyage et de restauration et qui concernait 300 salariés environ. Donc pour ce lancement de grève, donc on sacrifiait à la tradition d'un canoc à un PowerPoint, mais on a soigné les couleurs désagréables juste pour vous. Donc on s'excuse, ça sort un peu flashy. Donc cette grève faisait suite à un premier essai en février 2008, donc de 9 cuisiniers dans un restaurant qui s'appelle La Grande Armée, donc à Paris, près des Champs-Élysées. Et le caractère inédit de ce mouvement, c'est d'avoir repris la revendication centrale de la lutte des sans-papiers, à savoir la régularisation, en l'associant au mode d'action traditionnel du mouvement ouvrier, la grève du travail. Donc, ce faisant, le mouvement a contribué à la construction d'une nouvelle figure, celle du travailleur sans-papiers, qui se loge dans les contradictions d'une politique migratoire qui promeut de nouveau l'immigration dite économique. En revendiquant en tant que salarié, les sans-papiers ont révélé un nouvel aspect concret de leur existence quelques années après la découverte de la scolarisation de leurs enfants autour du réseau Éducation sans frontières. Donc, en se mettant en grève, ces salariés sans-papiers se sont mis sous la protection du droit du travail, là où, jusqu'à ce moment-là, le mouvement des sans-papiers avait plutôt mis en sourdine les conditions d'emploi et de travail, notamment de peur que la mise en avant de cette activité salariée non autorisée joue au détriment des personnes qui étaient concernées. Donc, le fait de mettre en avant cette identité a fait l'objet de nombreuses hésitations, à la fois de la part des pouvoirs publics et des syndicats donc, qui ont porté ce mouvement, pour finalement arriver donc à une situation où les fiches de paye sont brandies, ont été et continuent à être brandies comme des sources de fierté et comme des symboles devant les caméras de télévision et apparaissent dans les médias comme un signe distinct, un signe conséquent d'identité en tant que travailleur et travailleur sans papier. Donc dans un premier temps, ce mouvement il s'est appuyé sur des salariés les plus proches de ce qu'on peut appeler une norme d'emploi standard, c'est-à-dire qu'ils étaient déclarés et cotisants, ils étaient en contrat à durée indéterminée, à temps plein, et embauchés directement par l'entreprise qui les utilisait. Donc c'est ce qui a constitué ce qui a été appelé au sein du mouvement lui-même, cette première vague, donc celle du 15 avril 2008, qui a été suivie par une seconde vague le 20 mai 2008, qui cette fois-ci s'est ouverte à des salariés à temps partiel et à des intérimaires. Pour ces salariés-là, la régularisation s'est avérée beaucoup plus problématique et elle l'est devenue d'autant plus lorsque les grèves ont cessé, c'est-à-dire pour la plupart des grèves, elles ont cessé au cours de l'été 2008. Ce qui fait qu'à l'automne 2008 et au cours du printemps 2009, les militants syndicaux franciliens, alors on parle essentiellement à ce stade-là du mouvement de la CGT, mais aussi de Solidaires Paris et de la CNT Nettoyage. Et donc ces syndicats ont tenté d'obtenir des critères de régularisation pour l'ensemble des travailleurs sans papier, pour essayer d'obtenir cette régularisation sans forcément passer par la grève, donc ce qui avait été le cas jusqu'à maintenant. Et de fait, l'arbitraire des décisions de régularisation, qui est un peu la norme, enfin qui est très clairement la norme dans le champ du droit du séjour en France, cet arbitraire s'est maintenu et donc n'a pas permis réellement d'obtenir satisfaction, ce qui a abouti à ce qui a été appelé un acte 2 des grèves, donc qui a été lancé en octobre 2009. Et là, on est passé à une autre échelle du mouvement, puisque quelques semaines après, la CGT et les 10 organisations qui portaient avec elles ce mouvement, donc il y avait 5 syndicats et 6 associations, dénombraient près de 6000 grévistes. Donc fin novembre 2009, on compte en Ile-de-France essentiellement 6000 sans-papiers déclarés comme grévistes et demandant leur régularisation sur cette base. Donc dans cet acte 2, les salariés concernés étaient beaucoup plus massivement des intérimaires, donc à la fois des salariés, on avait toujours des salariés en CDI à temps plein déclarés, cotisants et directement embauchés par leur employeur, mais également des intérimaires, des travailleurs et des travailleuses au noir, et des Algériens et des Tunisiens, ces deux nationalités ayant été exclues. Des dispositions qui avaient malgré tout été un peu qui étaient issues de l'acte 1, enfin de 2008, donc le peu de dispositions qui s'étaient appliquées dans les préfectures essentiellement d'Île-de-France n'avaient pas été appliquées aux Algériens et aux Tunisiens pour cause d'accords bilatéraux entre la France et l'Algérie et la Tunisie. Donc le fait d'inclure ce type de salariés, donc qui sont sur des normes, enfin sur des statuts d'emploi dit atypique ou pas de statut d'emploi du tout, notamment dans le cas du travail au noir, est passé par l'organisation de piquets de grève collectifs. Donc on est passé d'une grève qui occupait les entreprises directement employeuses des salariés à une grève occupant des organisations patronales, occupant des agences d'intérim, mais les occupants n'étaient pas uniquement des salariés intérimaires travaillant avec l'agence occupée, pardon. Donc on a eu de avril 2008 à 2009-2010 une évolution du type de salarié sans papier concerné par la mobilisation et du coup une évolution du type d'occupation de grévistes qui était organisé. Donc, mais dans l'acte 1 comme dans l'acte 2, les salariés concernés du fait de leur statut au regard du droit au séjour, appartiennent au salariat bridé, pour reprendre l'expression de Yann Moulier-Boutan, c'est-à-dire que leurs possibilités de contestation ou de fuite face à leur employeur sont limitées, tout comme, a priori, leur capacité de mobilisation collective. Donc, ces grèves se sont achevées entre l'été et l'automne 2010. Peut-être que vous avez vu dans la presse, notamment l'occupation du parvis de l'Opéra Bastille, a fait l'objet de plusieurs articles et de plusieurs reportages. Donc ça, c'était en mai-juin 2010. Puis l'occupation de la Cité de l'immigration, qui a eu lieu en octobre 2010 et qui a duré plusieurs semaines. Et donc, ces deux occupations marquant un éloignement de la logique initiale du mouvement, qui était d'occuper des lieux de travail pour occuper des lieux plus symboliques et du coup tomber sur une forme d'action plus proche de celle du mouvement des sans-papiers précédent, enfin, qui existait depuis plusieurs années. Donc actuellement, l'enjeu, enfin, pour vous donner une idée de où en est le mouvement aujourd'hui, l'enjeu est d'obtenir la régularisation de ces 6000 grévistes de l'automne 2009 et d'obliger le gouvernement et les préfectures à tenir les engagements qui ont été pris au moment de la levée de l'occupation du parvis de l'Opéra-Bastille et au moment de l'occupation de la cité de l'immigration. Ce qui, pour le moment, ne se passe pas pour le mieux pour les salariés sans papier. Donc, la recherche qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'une enquête collective qui a été menée donc, de février 2008 à novembre 2010. Donc, Laurent l'a dit, on est donc 5 normalement. Donc, il y a Pierre Baron, Nicolas Jounin et Lucie Tourette qui ne sont pas là aujourd'hui. Et cette enquête a consisté en la réalisation d'une centaine d'entretiens avec des grévistes, des militants syndicaux et associatifs donc, qui soutenaient ou encadraient le mouvement, avec des employeurs et certains de leurs représentants, avec des agents de l'État au niveau local et national. Et nous avons également réalisé donc, des observations lors de manifestations, de réunions publiques, sur des piquets de grève et lors des réunions Assemblée générale de grévistes ou au sein des structures territoriales de la CGT à Paris. Donc enfin, le dernier élément de terrain, c'est qu'on a travaillé sur les nombreuses décisions de justice auxquelles le mouvement a donné lieu, sur les textes militants, administratifs, réglementaires, législatifs, qui ont donc accompagné le mouvement. Donc on est assez content de vous présenter cette communication avec ce titre-là, parce que c'est le titre qu'on voulait pour le livre, mais l'éditeur n'en a pas voulu. Du coup, on était content de pouvoir le réutiliser ici.
Pour dire le titre.
Oui, donc le titre de la le titre de la communication, donc, c'était La grève des sans-papiers, le mouvement ouvrier face aux contradictions des politiques migratoires, mais donc ce n'était pas assez dynamique pour notre éditeur. Donc on va plutôt vous parler, après cette brève description du déroulement du mouvement, on va plutôt aborder donc les enjeux de ce mouvement plus que son fonctionnement vague après vague ou acte après acte. Donc dans un premier temps, on va analyser les contradictions de la politique migratoire qui ont entouré et suscité ces grèves, pour ensuite s'attacher aux enjeux qu'a posé ce mouvement pour les syndicats.
Alors, je vais me charger de la première partie, et cette première partie sur les contradictions de la politique migratoire française va essayer d'expliquer comment ces contradictions, ou de ces contradictions, sont nées les grèves de sans-papiers, ou comment ces grèves se sont saisies des contradictions posées par les politiques. Avant de parler de ces politiques, il faut faire un point sur la situation, l'existence des sans-papiers, et notamment le modèle par lequel on la perçoit, on la décrit souvent, qui est celui de l'invisibilité. De ce qu'a dit déjà Anne sur la jeunesse de ces mouvements, il apparaît que le modèle de l'invisibilité est largement un mythe, c'est-à-dire que les sans-papiers ne sont pas invisibles. D'ailleurs, ils ne sont pas non plus aux marges de la société. On pourrait plutôt dire qu'ils en sont dans les failles, même si le terme n'est pas exactement adéquat. Ils ne sont pas invisibles, ils sont camouflés. C'est-à-dire qu'ils sont non pas à l'écart de toute institution, mais incorporés dans les institutions de la société et du marché et du travail formel y compris, grâce à l'usage de faux documents, à l'empreinte d'autres identités, tout un ensemble de techniques, mais aussi dans l'espace public, évidemment, qui font des immigrés sans papier des personnes camouflées, mais certainement pas invisibles. Hein. Le paradigme est beaucoup plus proche, par exemple, du placard pour la question d'orientation sexuelle que de l'invisibilité à proprement parler. Alors pourquoi c'est important? Parce que précisément le resserrement de l'appareil de capture et le resserrement du régime de citoyenneté en France et du régime d'immigration en France à partir de la fin des années 90, début des années 2000 et notamment avec le retour de la droite au pouvoir, eh bien a mis en danger le succès de ce camouflage. À partir du retour de la droite au pouvoir, donc en 2002, déjà les possibilités de régularisation s'épuisent. L'admission régulière au séjour sur la base d'une présence de 10 ans sur le territoire est abolie. Et entre 2003 et 2007, trois lois successives durcissent les conditions de regroupement familial. Les conjoints étrangers voient leur situation se précariser et les nombres d'expulsions explosent, hein, passant de 10 000 en 2003 à près de 24 000 en 2007. Alors on sait que ce chiffre est complexe à analyser, mais enfin, l'augmentation est quand même réelle. Par ailleurs, la chasse aux sans-papiers que je décrivais un petit peu au début s'intensifie avec la mobilisation d'administrations qui n'étaient pas initialement ou pas habituées à contrôler le séjour, que ce soit Pôle emploi, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit les caisses primaires d'assurance maladie. Et donc on a d'un côté ce resserrement. Par ailleurs, il y a quelques mouvements sociaux qui essayent au début des années, au milieu des années 2000, de mobiliser les sans-papiers à partir d'une identité concrète, et notamment évidemment le réseau Éducation sans frontières, qui, à partir de juin 2004, tente d'impulser une vague de régularisation à partir de la situation de parents d'enfants scolarisés et insérés dans un tissu social local. Mais en 2006, sur 30 000 dossiers déposés, il y avait seulement 6 000 personnes régularisées. La déception était donc grande et la porte avait semblé être refermée pour de nouvelles demandes. C'est dans cette situation que commence à émerger le mouvement des travailleurs sans papier. Alors, montrer que les sans-papiers travaillent, et pas seulement au noir, c'est pas une chose évidente pour des mouvements politiques et des mouvements sociaux ou des mouvements syndicaux. Et constituer ce fait du travail comme une source de légitimité migratoire l'est encore moins. Et il a donc fallu tout un travail politique de formulation pour le faire admettre. Cette formulation se cristallise dans l'expression « travailleurs sans-papiers », qui est largement une invention, une création du mouvement. Et de même que « sans-papiers » est un terme inventé dans les années 70, en opposition à « clandestin », et qui était rendu d'usage courant dans les années, par les mouvements dans les années 90, eh bien, il était entre 2006 et 2008, il a été à la fois un instrument de description de la situation des sans-papiers, des travailleurs sans-papiers, mais également un instrument de combat. Mais si l'expression est issue des grèves, ces conditions d'éclosion sont le résultat d'une coproduction avec l'État. À l'origine, c'est l'État qui, en tentant de transformer le régime des politiques migratoires, a placé en son cœur, d'abord rhétorique, puis progressivement réglementaire, le statut de travailleur. Les pouvoirs publics se retrouvent alors aux prises avec les contradictions d'une politique qui se veut à la fois libérale et nationaliste. Alors, je vais expliquer. Le gouvernement Sarkozy essaye de jongler entre ces deux discours politiques et ces deux séries de mesures, ce qui relève du libéralisme et ce qui relève du nationalisme. Alors, ces deux nébuleuses discursives ne se recoupent pas nécessairement, elles comportent un certain nombre de contradictions. Il y a des contradictions qu'on connaît assez classiques, par exemple celle qui oppose la libéralisation des mouvements de capitaux, mais la fermeture des frontières. Bon, très classique, opposition entre nationalisme et du moins un certain type de libéralisme. Cette contradiction a produit en partie, pour un grand nombre d'analystes, un afflux ou une multiplication de cas de sans-papiers. Mais une deuxième contradiction qu'on a aussi observée, c'est celle entre le laisser-faire économique d'un côté et puis l'application de frontières civiques, à l'intérieur du marché du travail. En gros, cette application, cette imposition de frontières civiques, ce contrôle du marché du travail imposé par des rhétoriques ou des politiques nationalistes, rentre en partie, heurte en partie le credo de laisser-faire, hein, si vous voulez, du cadre libéral. Il les heurte tellement que finalement, du point de vue de la criminalisation des employeurs, eh bien, ces poursuites sont relativement limitées et de nouveaux dispositifs de contournement sont régulièrement trouvés pour empêcher les poursuites vis-à-vis des employeurs. Et c'est souvent les employeurs les plus proches des sans-papiers, par ailleurs souvent aussi eux-mêmes des étrangers, qui se retrouvent mis en cause plutôt que les grandes entreprises. Un autre exemple est la tentative de criminalisation des donneurs d'ordre de sous-traitants ou d'agences d'intérim qui a finalement été abandonnée, que ce soit dans les textes européens ou dans les textes nationaux, en disant simplement que les employeurs finaux étaient responsables si on leur notifiait par écrit que les salariés du fournisseur de main-d'œuvre étaient sans papier. Donc, c'est-à-dire que si on lui signe par écrit qu'ils ne le sont pas, il est couvert. Alors, ça, c'est une deuxième contradiction. Mais la troisième contradiction qui nous semble la plus intéressante ici et sur laquelle s'est appuyé le mouvement des travailleurs sans papier, c'est celle qui concerne la formulation du travail comme un devoir. Comme vous savez, depuis au moins une décennie, les régressions de la situation des salariés en France, comme dans d'autres pays, se sont accompagnées d'un discours et de politiques qu'on pourrait résumer sous le terme de workfare, hein, c'est-à-dire qui transforme l'emploi en un devoir civique, que ce soit avec des politiques disons punitives ou avec des politiques d'incitation. Des politiques actives de l'emploi mises en place, l'emploi devient un devoir imposé à chaque citoyen. J'ai oublié la fin de ma phrase. Donc ça, c'est le cadre rhétorique et réglementaire qui donc s'impose à l'ensemble des salariés. Mais d'un autre côté, vous avez une politique nationaliste qui, elle, dans sa stigmatisation des sans-papiers et dans sa volonté de limiter le nombre de régularisations, par exemple, doit présenter l'emploi non plus comme un devoir civique, mais comme un privilège. C'est-à-dire qu'elle doit remettre en partie en cause la rhétorique, disons, punitive sur le marché du travail, qui consistait, je voulais citer Castel, hein, l'emploi à n'importe quelle condition, la rhétorique libérale ici bute sur la rhétorique nationaliste, ou du moins la rhétorique nationaliste de fermeture civique du marché du travail, bute sur la politique de workfare qui doit présenter ces emplois comme un privilège. Alors là, c'est un de ces gouffres, une de ces failles dont se sont saisis les sans-papiers, pour résumer, en se présentant comme, disons, des sous-citoyens qui se lèvent tôt. Hein, puisque eux, ils disent, mais oui, nous, les emplois, on les occupe. D'ailleurs, on a été choisis. Je vais revenir sur les différentes lois qui vont être votées. Les sans-papiers vont s'engouffrer dans cette brèche. Au même moment, le gouvernement vote un certain nombre de lois qui, ouvrent davantage encore cette brèche. D'abord, c'est tout un nouveau discours sur l'immigration choisi se développe, qui vise à privilégier le pouvoir discrétionnaire de l'État dans les décisions migratoires au détriment de la liberté individuelle des migrants. Alors, dans le même temps, donc ce discours d'immigration choisi, une des lois qui est votée, c'est le 24 juillet 2006, on remet au goût du jour la carte salariée, la carte de séjour salarié qui était tombée en désuétude à la fin des années 70. L'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, dite loi Hortefeux, lui autorise, et c'est le plus important ici pour le mouvement des sans-papiers, la régularisation à titre exceptionnel d'un sans-papier qui bénéficierait d'un contrat de travail manifestant l'engagement de son employeur. Alors, normalement, c'est une loi qui imagine un nouveau cas de faveur. C'est-à-dire que le but du gouvernement conservateur était de donner tout pouvoir à l'employeur de de régulariser les salariés qu'il aurait choisis. Hein, dans un salarié sans papier, qui aurait déjà été sans papier et qui l'aurait sélectionné parmi les plus méritants ou les plus fidèles pour être régularisé. En vérité, ce qu'a fait l'État, et ce qu'il ne pouvait pas ne pas faire, c'est inviter l'ensemble, non pas juste l'employeur, mais l'ensemble de la relation d'emploi dans la décision migratoire. La relation d'emploi, c'est-à-dire l'ensemble des antagonismes dont cette relation est porteuse, et des institutions que ces antagonismes ont produits au cours de deux siècles de lutte sociale, du droit du travail jusqu'au syndicat. Et ce sont donc justement précisément les syndicats, et significativement ici la CGT, qui, accompagnés par un certain nombre d'associations, ont exploité ce qu'ils ont alors qualifié de brèche. Et du côté, donc, voilà la, disons, le coût réalisé par les syndicats, et pour réaliser ce coût, ils se sont aussi fondés sur disons, un produit de ces politiques migratoires régressives, qui est l'alimentation par la précarisation des migrants avec et sans papier au cours des années 2000, l'alimentation d'une couche croissante de sans-papiers qui ont beaucoup de ressources. Alors, pas forcément financières, hein, mais des ressources culturelles, un temps de présence élevé, parfois un passé ayant été légal en tant qu'étudiant, en tant que tout un ensemble de statuts. Et donc, plus une politique devient répressive, plus elle alimente, elle maintient dans l'illégalité une couche de sans-papiers qui ont beaucoup de ressources, ou qui, disons, à l'extrême, ont tout sauf des papiers. Alors, c'est plus compliqué, mais qui appuie sur cette contradiction. Et c'est à l'origine, entre 2007-2008, au début du mouvement, c'est cette couche, ce groupe de salariés sans-papiers intégrés, avec beaucoup de ressources, plus de ressources, du moins, que des gens qui viennent d'arriver, ou des gens qui travaillaient au noir. On avait des gens qui étaient en CDI depuis longtemps, hein, par exemple. Et bien c'est ce groupe de sans-papiers qui a formé la colonne vertébrale du mouvement initial.
Donc, à partir de ces contradictions et de cette stratégie, donc, et avec le déroulement qu'on vous a exposé en introduction, donc les grèves ont soulevé essentiellement trois enjeux pour l'activité syndicale. D'une part, le fait de devoir faire vivre les droits au travail et significativement le droit de grève des travailleurs sans papier. Dans un second temps, les syndicats se sont retrouvés en position d'authentifier et d'identifier les individus susceptibles de bénéficier de ces droits et d'élargir ces droits au risque de devenir un intermédiaire de la régularisation. Et dans un troisième point, on verra comment, dans cette entreprise de conquête de droit au séjour sur la base du droit au travail, enfin du droit du travail et du droit de grève, les syndicats ont dû faire face aux contradictions de la politique gouvernementale, rendant pour être régularisés la précarité quasiment interdite. Donc, au cours des dernières années, Sébastien l'a évoqué, l'exercice de nombreux droits a été de plus en plus soumis à la régularité du séjour, donc notamment de droits sociaux. Néanmoins, l'identité de travailleur est restée l'une des seules à partir desquelles les sans-papiers peuvent prétendre à des droits. C'est-à-dire que, pour le dire un peu vite, un salarié sans-papiers n'a pas moins de droits de droits dans le cadre du travail qu'un salarié avec papier, et notamment, il dispose du droit de grève. Donc, néanmoins, jusqu'au début, donc aux prémices de ce mouvement, l'exercice effectif de ce droit était particulièrement rare. Et ce qui est apparu avec donc les premiers, donc on n'en a pas trop parlé, mais si le lancement officiel des grèves, c'est le printemps 2008, il y a eu des coups d'essai en 2006-2007, toujours en région parisienne. Ces coups d'essai et le début des grèves de 2008 ont montré que non seulement la grève était un moyen d'action légalement ouvert aux sans-papiers, mais également que ce moyen d'action les protégeait, et qu'elle les protégeait notamment des arrestations, puisque en tant que salariés occupant leur lieu de travail, la police n'avait pas le droit de venir les arrêter pour les mettre en centre de rétention, puisque c'était un conflit du travail, et donc a priori, sans décision de justice, l'arrestation n'était pas possible. Donc à une époque où la chasse aux sans-papiers s'est beaucoup, enfin, s'intensifiée depuis de nombreuses années, du coup la grève est apparue comme quelque chose qui ne protégeait pas seulement par le rapport de force matérielle qu'elle instaure, mais aussi parce qu'elle ouvrait une situation bordée de garanties juridiques, ce qui était assez inédit pour des sans-papiers. Donc, les travailleurs, une fois qu'a été posé ce principe du droit de grève et des garanties juridiques qu'apportait la situation de gréviste aux sans-papiers, s'est posé la question de l'effectivité de ce droit de grève, notamment pour ceux des grévistes sans-papiers qui occupaient des emplois à temps partiel, en intérim, qui travaillaient au noir. Et donc la question s'est posée de comment rendre effectif le droit de grève pour ces salariés-là. Donc je vais passer assez vite, mais cette question s'est notamment posée de façon assez aiguë pour les intérimaires sans papier et pour les intérimaires de façon générale. Mais donc la question a été posée à partir de la situation des sans-papiers et spécifiquement donc dans cet acte 2 qui s'est lancé en 2009. Acte 2... je l'ai évoqué tout à l'heure, caractérisé par le fait que les lieux de grève n'étaient pas, enfin les lieux d'occupation n'étaient pas forcément les lieux où travaillaient effectivement les gens, enfin les grévistes qui occupaient, qui est des agences d'intérim, donc il y avait des fédérations patronales, des organismes de formation, notamment dans la restauration, donc qui étaient occupés. Et donc du coup, dans cette configuration-là où la grève occupe un lieu qui n'est pas le lieu de travail direct ou l'employeur direct de ceux qui font grève, la justice pouvait en tirer deux conclusions opposées. Soit elle reconnaissait le caractère collectif de l'employeur et validait les occupations d'organisations patronales ou de grandes entreprises en y reconnaissant un conflit du travail. Soit elle renvoyait ses actions dans le rang des occupations classiques ou symboliques, mais illégal, dont le mouvement des sans-papiers est coutumier. Donc pendant longtemps, on vous parle de plutôt 2009, donc l'automne 2009, donc d'octobre 2009 jusqu'au cœur de l'hiver, les décisions de justice ont plutôt suivi la deuxième voie, c'est-à-dire que les expulsions se sont succédées, donc de nombreuses expulsions ordonnées par des juges ont eu lieu dans les agences d'intérim et dans les différents lieux d'occupation qui avait été occupé à partir d'octobre. Et sur des arguments multiples, le premier argument qui était souligné par les juges était qu'il y avait une absence de lien salarial entre les occupants et, donc là, comme on parle de l'intérim, et l'agence d'intérim occupée. Donc c'était notamment le cas quand les grévistes refusaient de s'identifier, ce qui du coup interdisait d'établir le rapport salarial. Donc ce qui donne lieu dans les jugements à des passages assez drôles où le juge décrit, alors souvent c'est des huissiers qui viennent faire des constats, décrivent que 25 personnes leur ont déclaré s'appeler Bernard Thibault et que donc du coup l'identification est un peu compliquée. Mais donc il y avait cet argument-là qui était mobilisé. Mais certains tribunaux estimaient aussi qu'occuper une agence pour laquelle les grévistes n'avaient jamais travaillé, bien qu'appartenant à une enseigne dont ils possèdent ou dont ils pouvaient prouver la possession de feuilles de paye, n'était pas non plus licite. Enfin, plusieurs tribunaux soulignaient qu'un intérimaire entre deux missions n'a ni devoir ni droit, et notamment pas le droit de grève, et donc même pour l'agence avec laquelle il travaille habituellement, le droit de grève n'est pas reconnu s'il s'est mis en grève, ce qui du coup n'est pas une grève, entre deux missions. Donc toutefois, cette série donc, de déconvenues judiciaires pour le mouvement a été contredite par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en avril 2010, qui a considéré que les feuilles de paye présentées par 16 occupants d'une agence prouver qu'il, je cite, se trouve bien en relation de travailleur intérimaire habituel avec la société Synergie à l'occasion de missions successives, quand bien même elles pouvaient être discontinues. Du coup, le lien salarial était établi et la qualification de gréviste justifiée. Donc, si l'intérim, aussi bien que le CDD à l'origine, vise à circonscrire la relation de travail au plus juste des besoins de l'employeur, une décision de justice de ce type suggère à l'inverse une extension de cette relation et de certains droits qu'elle comporte, en particulier celui de faire grève. Et donc cette décision pour le moment est isolée, mais elle ouvre la voie, ou en tous les cas, elle peut laisser penser qu'à partir d'un mouvement de grève concernant uniquement les salariés sans papier, ce mouvement est susceptible d'avoir, ou à l'avenir, d'approfondir les droits pour l'ensemble du monde du travail, et donc notamment donc, pour cette question du droit de grève dans l'intérim. Le deuxième enjeu pour l'activité syndicale, c'est celui de devenir, donc pour le syndicat, et ça s'est posé de façon particulièrement vive pour les structures parisiennes et franciliennes de la CGT, pour devenir un intermédiaire, de la régularisation et ce que ça peut engager dans l'activité quotidienne du syndicat. Donc, effectivement, les organisations syndicales ont contribué à authentifier les grévistes, puisque concrètement, une fois que les grèves ont été déclenchées, une fois que le principe de la régularisation par la grève a été acquis ou en tous les cas reconnu, la question s'est posée de comment authentifier l'identité des grévistes régularisables et par quelles normes encadrer et certifier la sortie du camouflage qu'a évoqué Sébastien. Et donc cette question a donné lieu à la production de normes très pragmatiques et provisoires d'identification des personnes et à une délégation tout à fait exceptionnelle, même si elle est demeurée implicite, du pouvoir d'identification des individus par l'État vers les employeurs et vers les syndicats. Donc c'est par exemple le cas par ce qui a été appelé des certificats de concordance, c'est-à-dire que concrètement, pour tous les salariés qui ont travaillé sous un faux nom, donc en employant soit le nom de quelqu'un d'autre, soit un faux nom, la question s'est posée de comment reconnaître que le salarié qui avait travaillé sous l'identité Y était bien le sans-papier X qui déposait son dossier de régularisation. Et du coup, syndicats et employeurs ont mis en place des certificats donc, qui étaient signés par les employeurs certifiant que monsieur Y était bien monsieur X et donc authentifiant les salariés. Le deuxième exemple d'authentification par les organisations syndicales, ça a été ce qui a été appelé une carte de grève durant l'acte 2, donc à partir d'octobre 2009. Donc carte de grévistes qui ont été distribuées à tous les grévistes, quelle que soit la couleur syndicale du piquet de grève sur lequel ils étaient. Donc c'était la carte de la grève, donc qui ne portait pas de logo syndical par exemple, mais qui portait... Alors il y a une... T'oublies complètement de passer... Donc ça, c'est le logo de la grève, donc dessiné par Tardy. Et donc la seule image sur ces cartes de grève, c'est celle-là, qui est donc vraiment le logo du mouvement. Et donc ces cartes comprenaient le nom et le prénom du gréviste, éventuellement son alias, c'est-à-dire son identité de travail, son numéro de téléphone, sa signature, sa photographie, et le nom, l'adresse et le secteur d'activité de son employeur, ainsi que le nom du responsable du piquet de grève. Et ces cartes comprenaient deux volets. Un volet que gardait le salarié avec lui, un volet qui était centralisé au siège confédéral de la CGT. Et donc ces cartes ont permis d'établir un répertoire des grévistes et des employeurs concernés. Donc dans un premier temps, cette carte a vraiment fait office de document d'identité, puisque c'était... 5 minutes, d'accord. Un document donc non falsifié qui correspondait effectivement à leur identité ou à leurs identités quand ils avaient travaillé sous un autre nom. Mais la question s'est assez vite posée de quelle fonction ultime pour ces cartes de grève et est-ce qu'elles allaient fournir la matière d'une liste de régularisables ou pas. Ce qui plaçait les organisations syndicales dans une position un peu délicate qui a correspondu à toute une série de questions qui sont posées sur sommes-nous une antichambre de la préfecture ou pas, dressons-nous des listes de régularisables ou pas, donc sur ce type d'interrogation. Et par ailleurs, sur la fin du mouvement, enfin au moment de l'Opéra Bastille, donc en mai-juin 2010, le gouvernement a accordé le fait que l'ensemble des grévistes recensés, donc qui avaient une carte de grève, puissent avoir une autorisation de séjour et de travail de 3 mois. Seulement, les préfectures franciliennes ne sont pas en mesure de délivrer 6 000 cartes temporaires de séjour rapidement. Donc, une lettre a été envoyée à Francine Blanche, donc, qui était la secrétaire confédérale CGT en charge de ce dossier, qui a été photocopiée en autant d'exemplaires que de grévistes. Et la lettre prévoyait que, ce serait la CGT et les syndicats, enfin les organisations soutien du mouvement, qui garantirait le fait que tel porteur de la lettre était bien parmi les 6000 grévistes. Donc, sur ce type d'enjeu, il y a vraiment eu donc, des tas de questions qui se sont posées et qui continuent de se poser sur le fait de devenir un intermédiaire de la régularisation. Alors, je vous passe les débats, parce qu'on n'a pas le temps, mais sur tous les débats qui se posent lorsqu'il y a des négociations, soit au ministère de, enfin, au feu ministère de l'immigration, soit en préfecture, sur les critères de régularisation pour les grévistes sans papier ou pour les salariés sans papier, et notamment toutes les discussions qu'il peut y avoir autour de la durée de présence, soit sur le territoire, soit dans l'entreprise où travaille le salarié sans papier. Et en gros, à chaque fois que les syndicats ont négocié des critères en préfecture, ça a aussi marqué le fait que ceux qui ne les remplissaient pas étaient exclus de la régularisation, ce qui a créé des crispations importantes avec le reste du mouvement des sans-papiers et qui a donné lieu notamment à un événement dont vous avez peut-être entendu parler, qui était l'occupation d'un des locaux de la Bourse du Travail par un collectif de sans-papiers, par le collectif des sans-papiers de Paris, pendant près d'un an, donc entre mai 2008 et juin 2009. Donc, je passe rapidement sur ça. Pour finir sur donc, cette idée de précarité interdite, qui est au cœur d'un paradoxe à la fois pour les pouvoirs publics et pour les syndicats. Donc, comme on vous l'a dit, le mouvement s'est d'abord appuyé sur les salariés les plus intégrés qui présentaient les propriétés les plus légitimes, donc déclarés cotisants à temps plein, enfin, je ne refais pas l'inventaire. Et cette réaffirmation d'une norme d'emploi standard découlait du filtre progressivement mis en place par le gouvernement au fur et à mesure que les grèves se déclenchaient, pour limiter la possibilité de régularisation pour les salariés sans papier. Donc le fait de réaffirmer une norme d'emploi standard pour que les sans-papiers puissent être régularisés peut sembler paradoxal, puisque les étrangers pris dans leur ensemble sont prioritairement touchés par l'éclatement du droit du travail engendré par les réformes des 35 dernières années. Et les travailleurs, et singulièrement les travailleuses en contrat à durée déterminée et a fortiori en intérim, à temps partiel et ou au noir, se sont retrouvés en position très marginale. Donc, les pouvoirs publics ont eu pour politique de freiner ou d'empêcher les régularisations en jouant de la faible reconnaissance institutionnelle de ces formes d'emploi atypiques. Et face à ce filtre, la stratégie des grévistes et de leur soutien a été souvent en deux moments. Dans un premier temps, essayer de sortir de cette forme d'emploi atypique, donc par exemple dans le cas de l'intérim, en demandant aux donneurs d'ordre d'employer directement les salariés intérimaires concernés, ou dans un deuxième temps, de faire reconnaître la forme d'emploi atypique comme une voie d'accès possible et normale à la régularisation. Donc, du coup, l'enjeu a été d'inclure de plus en plus de salariés au statut atypique, dans les grèves pour les faire régulariser, et de en face, les préfectures n'ont cessé de rendre de plus en plus difficiles les conditions de régularisation pour ces salariés au statut atypique. Et donc, si aujourd'hui, et c'est le cas depuis le début du mouvement, l'obtention d'une carte de séjour salariée n'interdit pas le CDD ou l'intérim, néanmoins, elle exige que la durée du CDD soit supérieur ou égal à 12 mois, ou que la durée de l'intérim dans l'agence qui parraine la régularisation soit supérieure à 910 heures sur l'année, ce qui du coup revient à contredire le principe même de ces deux contrats, c'est-à-dire la flexibilité et le fait que l'employeur puisse se débarrasser facilement de cette main-d'œuvre, puisqu'il est beaucoup plus difficile de se débarrasser d'un salarié pendant son année de CDD ou ses 18 mois de CDD que s'il était en CDI. Et donc, de la même façon que la décision de cour d'appel que j'ai évoquée tout à l'heure, en parlant de travailleurs habituels d'une agence d'intérim, tend à remettre en cause assez sérieusement le principe même de l'intérim. Et donc, dans leur affrontement, aussi bien les initiateurs du mouvement que les pouvoirs publics semblent avoir agi de manière pragmatique, puisque du côté des pouvoirs publics, on a mis en avant une norme d'emploi comme filtre à la régularisation, alors qu'on peut d'abord voir comme une stratégie de division du mouvement, en du coup excluant ceux qui étaient sur des statuts atypiques pour ne laisser au centre que ceux qui étaient sur du CDI, etc. Mais du coup, en faisant ça, les pouvoirs publics vont complètement à rebours des mesures politiques prises depuis les années 70 qui attaquaient l'hégémonie du CDI à temps plein. Donc on pourrait se demander, par exemple, comment les pouvoirs publics accueilleraient une demande de régularisation sur la base précaire d'un contrat de chantier, contrat créé à la fin des années 70, ou d'un contrat à objet défini créé à la fin des années, enfin en 2008. Et donc, du côté syndical, il y a un paradoxe symétrique, puisque les syndicats ont dû demander aux pouvoirs publics de réviser à la baisse les exigences en matière de qualité de l'emploi auxquelles ils conditionnaient la délivrance des titres de séjour. Et donc, se sont trouvés en position de dire si l'intérim, le CDD, le temps partiel sont des conditions suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, et donc ces salariés peuvent être régularisés. J'arrive. donc, pour finir, si ce mouvement finalement peut être considéré comme une production de la politique d'utilitarisme migratoire par le cadre que cette politique a mis en place, la question parfois taquine qui a été posée au mouvement était de savoir si c'en était une confirmation. Et ce qu'on peut dire, c'est que certes, ce mouvement n'a pas transformé les principes à l'œuvre en droit des étrangers, ni n'a vraiment permis de modifier véritablement la réglementation, puisque tous les textes qui ont été obtenus sont des textes au statut juridique très flou, ou à pas de statut juridique. De ce point de vue-là, le mouvement n'a pas atteint son but. Pour autant, il contredit bien en pratique l'utilitarisme migratoire, puisque la politique d'utilitarisme migratoire implique la souveraineté conjointe de l'employeur et de l'État, là où le mouvement a fait que les grévistes sans papiers ont imposé leur régulariser, et que s'il est difficile de dire si les grèves sont les seuls responsables de l'augmentation du nombre de régularisations entre 2007 et 2008, ni de prévoir la tendance pour les années suivantes, on peut néanmoins dire que bon nombre des grévistes de 2009-2010, donc du deuxième acte, sont susceptibles d'obtenir une régularisation qui leur était auparavant fermée. Au-delà du résultat comptable, se trouve une victoire politique, car le chemin pris par les sans-papiers, donc le chemin de la lutte collective sur le plan du travail, apparaît alors plus rentable que celui de la patience solitaire, largement encouragée par les pouvoirs publics. Je vous remercie.
Bon, on va prendre une première série de questions.
Non, juste peut-être une précision, tu as mentionné effectivement l'occupation des locaux de la CGT à la Bourse du Travail. Donc est-ce que vous avez travaillé là-dessus dans le cadre de votre recherche et qu'est-ce que vous en avez conclu, tiré ?
Oui, je voulais juste dire à propos de la régularisation par le travail qu'en réalité il faut également voir la différence qu'il y a entre Paris et la province. Parce que pour tous ceux qui sont à côté des sans-papiers, par exemple sur les histoires de régularisation par le travail, localement à Poitiers, ça n'a jamais pu marcher avec les mêmes critères. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était très flou. D'abord, ce n'était pas une loi, c'était des règles, je cherche le nom, qui n'est pas une loi, qui était donnée par le ministère. Et en particulier, sur le plan local, par exemple, on a un secrétaire général de la préfecture, puisqu'il est une préfecture de région, qui exige, pour pouvoir une régularisation par le travail, d'avoir un CDI à temps complet, avec promesse écrite de l'employeur de verser la taxe que doivent verser les employeurs pour prendre un étranger. Avec en plus l'autorisation de la direction régionale du travail, selon laquelle c'est un métier qui permet d'envisager des étrangers. Donc je pense que là aussi, il y a une énorme différence entre ce qui se passe en province et ce qui se passe dans la région parisienne et dans la banlieue. Et de la même manière, quand vous parlez de l'invisibilité des sans-papiers, dans une ville comme Poitiers, les sans-papiers, ils sont tous sauf clandestins. Tout le monde les connaît. La plupart ont des enfants, donc ils ont l'aide sociale à l'enfance qui est versée par le Conseil général, donc ils ont une adresse. Donc, je veux dire, il n'y a pas du tout cette idée de clandestinité des sans-papiers à Poitiers. Ils sont, tout le monde les connaît. En plus, il y a une grosse communauté guinéenne qui a fait parler d'elle par une grève de la faim qui a duré un mois, il y a 4 ans, dont personne n'a parlé, sauf au plan local, mais, et qui a donné très peu de régularisation.
Moi, j'aurais aimé savoir si vous avez... comment a été gérée la peur de l'action, en fait, au sein du collectif, et notamment au départ de l'action, parce que la gestion de la peur détermine ou pas l'acte, en fait. Et je pense que ça, c'est une donnée importante, et notamment en termes de cellules familiales, donc la femme, les enfants, quel risque on prend en entrant dans l'action ?
On va en prendre une dernière, et puis après...
Oui, je voulais vous remercier déjà parce que je trouve que ce genre d'études et de livres est vraiment très très important actuellement sur les études, sur le syndicalisme en particulier. Parce que je pense que étant donné les difficultés qu'a l'acteur syndical aujourd'hui, il n'y a que par cette ouverture à de nouvelles luttes qu'il pourra retrouver un peu de souffle. Et donc c'est vraiment très très important. Je voulais savoir, donc il y avait ce comité sans papier au sein de la CGT. Est-ce qu'il y avait des liens avec le comité chômeur? Comment ça, parce que je pense que c'est aussi vraiment un nouveau mouvement important, les comités chômeurs au sein des syndicats. Comment se lient les sans papiers et les chômeurs, s'ils se lient? Autre chose, je sais que dans les comités chômeurs que j'ai un petit peu étudiés, il y a une très forte difficulté à trouver des porte-paroles. De fait. Donc le problème de la représentation doit se poser également chez les sans-papiers. Autre chose, vous avez parlé de la CGT, vous n'avez pas parlé de la CFDT. Comment s'est positionnée la CFDT ? Et dernière petite question, est-ce qu'il y a d'autres expériences de ce type dans d'autres pays européens dont vous avez connaissance ?
Je crois que ça fait assez de questions pour un premier tour.
Alors, donc je vais commencer à donner des réponses et puis Sébastien prendra le relais. Alors sur l'occupation de la Bourse du Travail, est-ce qu'on a travaillé dessus pour des questions de maintien sur le terrain? Non. En partie, enfin, on n'a pas fait, alors, par exemple, on n'a pas fait d'observation dans les locaux occupés, hormis dans les structures territoriales qui étaient dans les mêmes bâtiments que les salles occupées par le comité des sans-papiers 75, puisque notre accès au terrain, c'était notamment l'Union départementale de Paris, qui était dans les locaux, dont les bureaux étaient dans la même annexe de la Bourse du Travail. Et donc, pour une question de maintien sur le terrain, faire des entretiens avec les deux parties n'était vraiment pas envisageable. Alors, ceci dit, quand on a commencé la recherche, on était 6. Donc, il y avait Amy Fall, qui est une étudiante de M2 de Paris 8, qui, elle, travaillait plutôt sur droit devant, donc sur l'association Droit Devant, et qui du coup elle a pu faire un peu des entretiens avec les occupants de la Bourse du Travail, mais ça reste un point un peu obscur de notre recherche. On l'a pris par les réactions syndicales à cette occupation, par le fait d'avoir fait pas mal d'observations participantes dans les locaux CGT, donc de la Bourse occupée, et de voir concrètement comment cela perturbait l'activité syndicale, comment les syndicalistes vivaient cette occupation. C'est-à-dire qu'en gros, cette occupation s'est faite dans les locaux donc, de l'UD de Paris, qui était la structure la plus impliquée dans la lutte pour la régularisation. Et donc les militants qui étaient les plus impliqués, qui portaient les dossiers, qui travaillaient sur ces questions tous les jours, étaient ceux qui voyaient cette occupation tous les jours, qui parfois avaient des relations assez tendues avec les occupants. Donc c'est ça qu'on a vu nous, c'est là-dessus qu'on a recueilli des entretiens, des choses comme ça, mais on n'a pas fait de terrain avec les occupants de la Bourse du Travail. Néanmoins, ce qu'on a pu en dire et en écrire, c'est joué essentiellement sur d'une part les causes de cette occupation, et notamment le jeu ambigu que la préfecture de Paris a joué avant l'occupation, c'est-à-dire en gros en insistant assez lourdement sur le fait qu'aucune régularisation ne se ferait sans le soutien de la CGT et que donc il fallait probablement s'adresser directement à la CGT pour être régularisé, donc d'où cette occupation. Et par ailleurs, au moment de... donc cette occupation s'est terminée par une évacuation un peu musclée, donc par un service d'ordre composé de militants CGT. Et ça a vraiment, donc à la fois l'occupation et la façon dont elle s'est terminée a marqué une césure importante et durable entre une partie des militants portant essentiellement le mouvement des travailleurs sans papier et les militants portant plutôt le mouvement des sans papiers au sens large, et entre deux revendications, la régularisation de tous les travailleurs et toutes les travailleuses sans papier d'un côté, et de l'autre côté la régularisation de tous les sans papiers. Et les deux mots d'ordre ont été brandis parfois l'un contre l'autre. Et c'est une ligne de fracture très forte qui traverse l'ensemble de l'espace de mobilisation autour des sans-papiers, en tous les cas en région parisienne. Sur la partie sociologie du syndicalisme, et qu'est-ce que ça... Donc, effectivement, on n'a pas évoqué ça, mais... le fait pour les syndicats qui s'y sont impliqués de s'impliquer dans cette lutte a permis de potentiellement de s'implanter dans des secteurs dans lesquels les syndicats étaient très peu implantés, à la fois en termes de statut d'emploi, donc toucher des salariés travaillant dans des PME, toucher des salariés avec des contrats précaires, etc., et également en termes de secteur d'activité, toucher des salariés dans la restauration, dans le bâtiment, dans le nettoyage, qui sont des secteurs encore moins syndiqués que d'autres. Du coup, il y avait un enjeu de ce côté-là qui reste sur les conséquences duquel aujourd'hui ça reste assez flou, c'est-à-dire concrètement, est-ce que ce mouvement va donner lieu à une syndicalisation massive ou en tous les cas à une implantation meilleure des syndicats dans ces secteurs? Il y a un gros point d'interrogation là-dessus aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure d'y répondre, et ça recoupe la question sur la difficulté de trouver des porte-parole. Alors, ce mouvement a produit des militants sans papier ou anciennement sans papier aux compétences militantes très affirmées. Donc, il y a des porte-paroles de ce mouvement. Il y en a eu sur l'acte 1, il y en a eu sur l'acte 2. Au vu du nombre de grévistes, ils sont assez peu nombreux. Mais malgré tout, il y a eu émergence de quelques figures où, pareil, leur devenir syndical reste pour le moment un grand point d'interrogation. Les liens avec les comités de chômeurs ont pu être personnels ou interpersonnels, mais n'ont pas été en termes organisationnels. Et globalement, ce mouvement a été porté essentiellement par les structures territoriales des syndicats, donc par l'UD parisienne de la CGT, par certaines UD de banlieue de la CGT, par Solidaire Paris, par donc la CNT Nettoyage qui est implantée à Paris aussi. Et puisqu'il y avait une question sur la CFDT, aussi sur un mode différent par l'UD75 CFDT. Donc sur cette question, la CFDT parisienne a porté des dossiers de régularisation depuis assez longtemps, sans grève, et essentiellement dans le domaine de l'aide à la personne. Donc avec des employés, pour beaucoup philippins, qui se syndiquaient à la CFDT, la secrétaire du syndicat parisien des travailleurs à domicile et une salariée philippine qui a une carte de séjour. Et donc la CFDT a une pratique de dépôt de dossier en préfecture qui repose sur un ou deux militants parisiens. Mais c'est notamment à l'initiative de la CFDT parisienne qu'il y a eu rencontre entre différentes structures syndicales et associatives qui a donné lieu à ces 11 organisations qui ont porté le mouvement en 2009-2010, puisque la CFDT les militants CFDT ont fait partie de ceux qui se sont aperçus arrivés en préfecture qu'on ne leur proposait pas les mêmes critères que ceux qui étaient proposés à la CGT. Et donc, du coup, la CFDT a lancé une dynamique de concertation entre les organisations parisiennes pour dire essayons de faire pression sur la préfecture pour avoir tous les mêmes critères. Et c'est ce qui a donné lieu au mouvement d'octobre 2009 avec la revendication d'une circulaire de régularisation comprenant des critères, ce qui pose un tas de problèmes juridiques, mais ce n'est pas le sujet là. Je te laisse.
Oui, Rapidement, parce qu'il est bientôt l'heure, sur les différences Paris-Province, alors certainement, en fait, il y a des différences vraiment de préfecture à préfecture. Mais en fait, les critères que vous avez décrits, en fait, on n'a pas assez précisé, c'est fait à peu près les critères quand même qui étaient sur Paris, c'est-à-dire qu'il fallait, oui, signer payer la taxe ANAEM puis OFI, remplir le CERFA, s'engager, soit signer, non, le CERFA faisait office de contrat de travail. De fait, dans un certain nombre de cas, les employeurs ont fait payer la taxe ANAEM à leurs salariés. Et beaucoup de salariés ont accepté. Et comme l'expliquait un syndicaliste de la CNT, il serait bête de ne pas accepter. Ça fait 5 ans qu'ils louent des papiers pour beaucoup plus cher, in fine. Là, on leur propose pour 800 euros d'avoir leur permis de séjour. Évidemment qu'ils acceptent. Donc beaucoup ont payé eux-mêmes la taxe qui, normalement, est dévolue aux employeurs. Concernant la peur de l'action, alors je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, le rapport à la famille, et puis le rapport à la visibilité. Pour la famille, on a eu beaucoup de cas, on n'a pas fait de statistiques, mais on a eu beaucoup de cas où les grévistes ne révélaient pas le fait qu'ils étaient en grève à leur famille. En tout cas, la famille restait au pays jusqu'à assez longtemps, puisque le départ en grève était considéré comme... risqué, comme potentiellement une trahison, potentiellement quelque chose de risqué qui pouvait mettre en cause la survie de la famille. Maintenant, il y a des pratiques de solidarité qui se sont développées, il y a beaucoup de cas différents, mais ça c'était un des aspects. Concernant le rapport à la visibilité, là je pense que l'expérience a joué assez fortement. Alors le Buffalo Grill a joué un rôle assez important, donc une des premières grèves a été très médiatisée, donc ça s'est su dans les foyers, on l'a vu à la télé, des sans-papiers qui pouvaient faire grève et qui étaient en partie protégés d'arrestation pendant ce mouvement. Et l'expérience de première main aussi après des grévistes qui se retrouvaient enfermés dans certains lieux de travail et ils voyaient la police à l'extérieur qui ne rentrait pas et qui trouvaient que c'était le monde à l'envers puisque c'était eux qui étaient à l'intérieur, la police à l'extérieur n'avait pas le droit de rentrer. Et puis je suis d'accord sur la question de la clandestinité. Alors après, selon les cas, ça peut être différent. Le principe du camouflage, on peut être très visible, mais pas visible en tant que sans-papier. Alors c'est une question que je vous poserai. Est-ce que dans la communauté que vous avez décrite, est-ce que les sans-papiers sont out comme sans-papiers ou est-ce que...
Non. En définitive, il y a également une différence. Je voulais vous poser la question sur le mouvement de Paris, parce que c'était surtout des Africains.
Oui.
Voilà. Et à Poitiers, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à Poitiers, quand on a fait des manifestations ou des occupations, ça a toujours été avec les Africains. Mmh. Alors qu'il y a une très grosse communauté arménienne, par exemple, géorgienne, azérie, afghan. Il y en a eu, puisque Poitiers étant une capitale régionale, ils arrivent en faisant leur demande d'asile, puis après, ils n'ont pas l'asile et ils restent. Non. Donc... moi, je pense que sur le plan local, c'est excessivement rare qu'il y ait des interpellations à domicile. C'est arrivé deux ou trois fois, mais la plupart du temps, les interpellations, elles ont lieu au hasard, entre guillemets, d'un contrôle routier, à la gare, d'une réquisition du procureur au péage de l'autoroute, des trucs comme ça. Mais localement, les familles de sans-papiers sont parfaitement connues, je veux dire, et en particulier de la préfecture. Parce que, et il y a en plus un phénomène qui commence à avoir lieu à Poitiers, mais qui a lieu ailleurs également, c'est l'augmentation des familles monoparentales. C'est-à-dire que très souvent, soit les hommes ont été expulsés, parce qu'on n'expulse pas les familles, c'est trop compliqué, donc soit les hommes partent ailleurs, et donc on retrouve sur le plan local un grand nombre de familles africaines monoparentales avec des problèmes que RESF connaît encore très bien. Là, on est dans une grosse difficulté.
On va faire un tour de questions.
Il y avait une question sur les expériences européennes.
Moi, je vous remercie. Je veux beaucoup plus m'intéresser un peu à la construction de la terminologie de sans-papiers que vous avez évoqué au début de votre présentation. Et aussi, vous avez fait le lien avec la chasse aux sans-papiers et qui aujourd'hui fait que, bon, voilà, on rentre sur un autre terrain. Et j'aimerais savoir si dans votre étude, vous avez essayé de vous intéresser un peu au parcours de ces sans-papiers. Comment est-ce qu'ils sont sans-papiers? Est-ce qu'ils sont, voilà, remontés à la terminologie initiale de clandestins ou, voilà, c'est ma question.
Oui, en fait, moi, j'avais deux questions sur les syndicats. D'une part, effectivement, en raison de cette tension entre la régularisation de travailleurs et la régularisation des sans-papiers en général, donc sur tension entre droit du travail et la remise en question des frontières, hein, quelles ont été les relations entre, d'un côté, la CGT et puis de l'autre, la CNT, j'imagine, sud plutôt à un niveau intermédiaire. Et d'autre part, bon, c'est une lutte qui a eu massivement et pour cause recours au droit. Donc là aussi, est-ce que vous avez un peu travaillé hein, sur peut-être un peu la contradiction dans laquelle les militants de la CNT pouvaient être mis à investir la question du droit, étant donné leur positionnement idéologique?
C'est bon, alors vous répondez à ces deux questions?
Alors, je vais répondre à la question sur les syndicats et Sébastien répondra à l'autre. Donc, sur les tensions, quelle relation entre les syndicats autour de cette tension entre régulariser les travailleurs sans papier et régulariser les sans-papiers? Alors, effectivement, donc là, c'est vraiment sur ce qu'on a observé au niveau, donc essentiellement sur les structures parisiennes, avec pour la CGT aussi la Confédération, puisque elle était impliquée. Alors, la CNT, pour le dire un peu vite, la CNT n'a pas vraiment eu de problème avec le mouvement, puisque la CNT n'a pas soutenu ce mouvement, hormis la CNT Nettoyage, et la CNT parisienne a déjugé la CNT Nettoyage pour son engagement sur ce mouvement. L'argument qui était, d'une part, l'ambiguïté du mouvement vis-à-vis de la politique d'utilitarisme migratoire. Mais, alors, est-ce qu'on peut dire essentiellement ou pas, en tous les cas, concomitamment, sur le fait que les salariés grévistes n'étaient pas des militants anarchistes, n'avaient pas la culture politique de la CNT et du coup que cette lutte n'était pas aussi politique que ce que, en tout cas, une partie des militants CNT parisiens auraient souhaité. Donc il y a eu un débat assez violent en interne sur lequel on a eu quelques entretiens. Et donc quand on parle de la CNT sur ce moment, c'est vraiment la CNT Nettoyage parisienne. Qui a eu une position qui était probablement la plus pragmatique, parmi les plus pragmatiques sur ces questions de droit, sur ces questions de monnayage de droit, puisque plusieurs protocoles de fin de grève, qu'ils soient portés par la CGT, par la CNT et par Solidaire aussi, je crois, en tous les cas CGT, CNT, sûr, prévoyaient que les grévistes, donc on est dans une sortie de grève, que contre engagement de la part de l'employeur à soutenir la régularisation et éventuellement paiement d'une partie des jours de grève, etc., les salariés renonçaient à leurs droits, toutes les possibilités de recours contre l'employeur, notamment au prud'homme, qui précédait l'entrée en grève. Donc il y a eu monnayage de certains droits. Là-dessus, les positions syndicales étaient relativement uniformes. Enfin, tout le monde est un peu comme sur le paiement de la taxe ANAEM par les salariés. Peu de syndicats ont une position de principe là-dessus. Il y a plutôt eu une attitude un peu pragmatique sur cette question. Après, sur les tensions qui ont pu apparaître au sein des structures syndicales ou entre les structures syndicales, entre régularisation par le travail, pour le dire vite, ou régularisation tout court, cette question a fait éclater la commission immigration de la CGT avant le début des grèves, puisque la secrétaire confédérale qui était en charge des questions d'immigration a dénoncé le fait que, en s'engageant sur ce mouvement, la CGT rétrécissait sa définition de la régularisation, ou en tous les cas rétrécissait l'espace d'engagement sur la question de la régularisation pour ces militants, sachant que dans les motions de congrès, sur les derniers congrès de la CGT, il y a à la fois la régularisation de tous les sans-papiers et le contrôle, enfin, je ne sais pas comment c'est, quelle est la formulation exacte, mais le contrôle de l'immigration, enfin le fait qu'on ne peut pas ouvrir les frontières. Donc ça résume assez bien la position, enfin l'éventail des possibles sur les positions CGT sur la question. Au niveau des militants, donc ça apporte à la fois la régularisation de tous les sans-papiers et la régulation des flux migratoires, ce qui donc est pas, enfin qui peut poser quelques problèmes de concordance. Et donc sur par exemple les militants solidaires, oui, il y a plein de militants. Enfin, Solidaires a été, enfin les militants solidaires parisiens font partie de ceux qui étaient sur les deux fronts. C'est-à-dire que une grande partie d'entre eux étaient à la fois sur le mouvement des sans-papiers classiques et sur le mouvement des travailleurs sans-papiers. Et une partie considérable des militants associatifs, politiques et syndicaux engagés sur ce mouvement à Paris étaient sur les deux. Étaient sur les deux sujets. C'est très vrai des militants RESF. C'est beaucoup le cas d'une partie des militants libertaires. Enfin, donc sur cette question a été très tendue en termes de position organisationnelle. Elle a été très tendue pour la CGT parisienne et pour la CGT confédérale. Mais au niveau personnel, il y a pas mal de militants qui ont concilié les deux et qui ont pris le mouvement des travailleurs sans papier comme une opportunité de régularisation, comme l'avaient été les parents d'enfants scolarisés et comme le seront peut-être d'autres figures de sans-papiers qui peuvent ouvrir à un moment des possibilités de régularisation. Je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus.
Deux mots. Sur les trajectoires des sans-papiers. Alors, c'est pas forcément menant au mouvement, mais simplement de trajectoire de vie. Oui, donc on a un certain nombre de portraits assez différenciés dans le livre. C'est assez classique, hein, mais il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui arrivent avec un visa tourisme et puis qui restent, et puis ceux qui arrivent directement, qui passent la frontière illégalement. Après, il y a vraiment des cas, c'est vraiment très divers. Hein, donc, je saurais pas donner un cas typique. On décrit aussi en partie les stratégies pour s'intégrer dans le marché du travail formel, donc au niveau des papiers, au niveau de la sécurité sociale, etc. Les empreintes papier, etc. Maintenant, on s'est posé des problèmes déontologiques, notamment dans la description. Au début de notre enquête, quand on découvrait, par exemple, que un certain nombre de sans-papiers ne sont pas à la CMU, mais ils ont simplement une carte vitale que souvent ils peuvent même utiliser. Alors pas toujours, parce que c'est plus difficile de l'avoir c'est plus difficile de l'utiliser que de l'avoir. Mais étant donné les modes d'insertion, disons depuis entre 1995 et le durcissement après 2005, c'était encore possible. La question, c'est si on décrit ça publiquement, eh bien peut-être après un an plus tard, c'est plus possible.
Fais attention, on est enregistré.
Mais je pense que c'est déjà moins possible qu'avant, effectivement. Bon, donc on s'est posé ce problème déontologique qui vient d'être résolu par inadvertance. Non, mais c'est un problème éthique qui est encore beaucoup plus important dans une enquête ethnographique, à mon avis, que la question des rapports interindividuels ou éventuellement l'anonymisation individuelle des personnes, qui est importante. Mais qui est, à mon avis, la question de les effets politiques d'une publication de ce type est au moins aussi importante. Sur juste les expériences européennes, moi je connais un petit peu les Pays-Bas. C'est vrai que quand je raconte, j'ai présenté déjà plusieurs fois cette grève aux Pays-Bas, et on nous dit encore, c'est l'expérience quand même à beaucoup plus petite échelle, et on nous dit encore, s'ils sont sans papier, la police elle arrive directement, même en cas de grève, ça. Mais c'est ce qu'on croyait avant. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de croyances sur le droit du travail qu'on avait également en France jusqu'à ce qu'elle soit démentie. a aussi le droit du travail, il est réinterprété selon les situations. Et d'ailleurs, il y a des syndicalistes qui expliquent, ou la juriste de la CGT qui dit, vous savez, les juges, ils sont comme tout le monde, ils regardent la télé, ils lisent les journaux, ils sont influencés aussi dans leurs décisions par les mouvements sociaux qui se trouvent devant eux. Et c'est ce qu'elle dit, je pense, même pour la décision sur l'intérim. Voilà, que... Enfin, pour autoriser la grève à continuer, etc. Elle explique que les juges sont des personnes. Voilà. Mais la France, pour cette stratégie-là, elle est très avancée.
Et peut-être juste une chose sur ce qui se passe ailleurs. Il y a deux thèses en cours, notamment une sur tout ce qui est migration circulaire, enfin permis de travail temporaire, notamment dans l'agriculture méditerranéenne en Espagne et en France. Donc sur, voilà, du coup ça fait des réflexions plus larges, beaucoup plus larges que ce que nous on a vu sur ce que fait le travail au droit au séjour et vice versa, et aux conditions de travail, etc. dans ce secteur particulier. Et donc, bien sûr, je ne me souviens pas du nom de la doctorante en question, mais enfin, il y a des travaux en ce moment qui se font et des travaux ethnographiques très fins sur cette question.
Ok, merci. Bon, ben, je propose qu'on arrête là sur cette table ronde. On fait une petite pause et on se retrouve à 4 heures sans faute pour la table ronde suivante.